Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 novembre et il faut que je trouve quelque chose à vous raconter pour l'émission hebdomadaire qui normalement est même un peu plus longue que les 3-4 minutes de l'émission journalière du podcast du jour. Alors, je pensais que ça aurait été intéressant de revenir un peu sur ce qu'on pourrait avoir comme contenu dans une émission consacrée à la lutte contre le tabagisme. Parce qu'après tout, on pourrait aussi se demander, mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à raconter? Et c'est vrai que parfois, il y a peut-être des jours où ben, finalement, l'actualité, en tout cas, telle qu'elle est dans les médias traditionnels, n'est pas très nourrie. Donc, on se gratte la tête, qu'est-ce que je pourrais raconter? En fait, il y a plein de choses à raconter. Et il suffit d'aller rechercher les informations qu'on a pu rassembler sur justement des sujets qui ne sont pas dans la grande presse traditionnelle. Par exemple, c'est fort intéressant de lire la presse professionnelle de l'industrie du tabac, notamment la Revue du Tabac en France ou le Losange, la Revue des Buralistes. Parce que là, on apprend beaucoup de choses sur toute la stratégie de promotion et de publicité des industriels et tous les mauvais coups qu'ils préparent. Et ainsi que toutes les nouvelles promotions, les paquets, les choses comme ça, dont on retrouve souvent, pas assez souvent d'ailleurs, mais enfin quand même, je crois, assez fréquemment, les traces dans les procès qui sont intentés, essentiellement en France, par le Comité national contre le tabagisme. On pourrait avoir d'ailleurs une chronique régulière sur ces procès, sur la surveillance qui est faite. Je crois que le Comité national contre le tabagisme et la Ligue contre le tabac ont allié leurs efforts pour faire créer et animer un observatoire des publicités et des promotions. Malheureusement, quand on va en ligne sur Internet ou même sur leur site, on ne voit pas tellement de choses. Alors que je suis persuadé qu'ils doivent avoir dans leurs archives un grand nombre de délits dont il serait très intéressant d'entendre parler et qu'on nous les présente et qu'on nous les détaille. Comme ça, on verrait un peu mieux comment fonctionne cette industrie pour inciter les gens, et notamment les jeunes, à cloper. Donc, effectivement, une surveillance de l'industrie, une surveillance, une chronique judiciaire, une chronique juridique. Alors, la chronique juridique, bien entendu, elle pourrait aussi avoir un aspect défense des non-fumeurs. On voit des éléments de défense des non-fumeurs sur différents sites, notamment le site sur les droits des non-fumeurs. Et on pourrait très bien imaginer d'avoir des chroniques régulières où on nous raconterait, j'imagine assez souvent les déboires des non-fumeurs enfumés sur leur lieu de travail, dans les lieux publics, etc. Mais aussi peut-être quand même, il y en a, ça existe, en tout cas à en croire ce qu'on voit sur le site, droit des non-fumeurs, des histoires qui se terminent bien, où bah oui, finalement, on arrive à obtenir de ne plus être enfumé sur son lieu de travail ou dans un lieu public. Et je pense que ça serait également quelque chose d'important de pouvoir revenir régulièrement là-dessus et revenir régulièrement sur les dangers qui ne sont pas du tout mentionnés. Il faut bien reconnaître effectivement que la seule campagne qui ait eu en 14 ans ou 15 ans organisée par les pouvoirs publics, qui était une bonne campagne à la télé, hein, qui montrait les dangers, qui montrait l'équivalent de ce que les enfants avaient pu fumer si les parents fumaient. Bon, bah, cette campagne, ça fait déjà plusieurs mois qu'elle est interrompue, et puis voilà, c'est fini, il y en a une, et puis on ne sait pas quand elle va revenir, et en attendant, il n'y a rien du tout. Et je pense que ce n'est pas par hasard, parce que ce ne sont pas des sujets que les gens et les organisations puissantes veulent voir développer en France. Donc voilà. Et donc ça serait intéressant d'avoir une émission, un podcast régulier sur les points de vue des non-fumeurs, sur ce qui se passe, sur comment ils s'organisent, etc. Alors je pense aussi, bien sûr, qu'il ne faudrait pas oublier les fumeurs qui veulent arrêter et qui n'ont pas non plus de soutien tellement, où on ne les incite pas tellement, on ne leur explique pas tellement comment il faut faire, et les jeunes non plus, on ne leur explique pas les dangers qu'il y a, comment ça se passe, comment c'est quelque chose d'extrêmement insidieux, qu'après très très peu de cigarettes, pour peu qu'on ait un peu un héritage biologique, ou un héritage qui vous prédispose à devenir dépendant du tabac, on a vite fait de devenir accro. Et je lisais... récemment, j'ai lu tellement de trucs avant de faire cette émission, je ne me souviens plus de la référence où j'ai vu, où il y avait justement quelqu'un qui citait des jeunes, des témoignages de jeunes qui étaient des fumeurs et qui racontaient qu'ils avaient commencé très jeunes et qu'ils avaient beaucoup de mal à arrêter, qu'ils n'arrivaient pas, ça les ennuyait considérablement. Ennuyer n'est pas le terme, ils étaient, j'allais dire désespérés. Oui, il y a quelque part de désespérés, alors évidemment, Il n'en avoue pas qu'on est désespéré, on l'avoue rapidement et on passe à autre chose, on prend une clope pour oublier le désespoir de ça. Mais je crois que les fumeurs, au-delà du déni, ils ont parfaitement conscience qu'ils sont devenus dépendants de quelque chose, d'une drogue, et qu'ils voudraient s'en débarrasser. Mais bon, il y a cette difficulté extrême qui ressortait de ces témoignages. Et là aussi, je pense qu'il faut en parler. Il faut en parler de manière à pouvoir libérer ça, leur donner la capacité d'en parler simplement et de dire bah ouais, c'est pas facile, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? Et leur proposer des aides réelles, ce qu'on fait pas vraiment à l'heure actuelle. Je pense qu'il n'y a pas. Et pas seulement des petits concours une fois de temps en temps qui n'existent même pas en France, il devrait y en avoir. Quand on voit qu'il n'y a pas en France l'équivalent du concours qu'il y a au Québec. J'arrête, j'y gagne, c'est sidérant, parce que j'arrête, j'y gagne, le concours qui est fait au Québec, qui dure pendant un mois, je crois, environ, ça rassemblait quand même, en moyenne, pour un pays qui est nettement plus petit que la France, presque 30 000 personnes. Pour un seul concours, pendant un mois, presque 30 000 personnes participantes, alors que en France, toute l'année, pour le moment, quand on regarde le nombre de personnes qui ont appelé les lignes pour arrêter de fumer au téléphone, ça fait à peine 30 000 personnes. Donc on se rend compte que là, une simple opération dans un pays bien plus petit, elle équivaut quasiment à l'ensemble des gens qui appellent au téléphone pendant une année en France, dans un pays bien plus peuplé. Ça exprime vraiment la faiblesse des initiatives qui sont prises pour inciter les gens à arrêter. Et on est resté dans une démarche purement médicalisée, où on incite les gens à aller arrêter à l'hôpital, dans des consultations tabagiques. J'ai rien contre, mais je pense qu'il faut faire bien plus que ça, et d'une manière extrêmement différente que la médicalisation. Et ça, tout reste à faire. Alors j'espère qu'il y a des choses qui pourraient se faire. Et effectivement, les podcasts, ils pourraient servir à ça aussi. Ils pourraient servir à parler un peu des gens qui arrêtent, à donner des témoignages, à donner des conseils. Et puis à servir peut-être aussi à lancer des initiatives comme J'arrête, j'y gagne, des concours, pourquoi pas, pour inciter les gens à arrêter, les aider. Alors, oui, il y a aussi... parce que les références à l'hôpital, j'y crois pas. Alors, il y avait une autre critique qui a été faite, que j'ai lue en regardant, et c'est un peu les sources. Quelles sont les sources qu'on peut avoir quand on essaie de faire une petite émission comme ça? Bon, moi, je regarde tout, hein. Et il y a, par exemple, les messages qui sont publiés sur Global Leak, les messages de la section francophone. Et là, il y avait une espèce de polémique au sujet des initiatives prises dans les écoles, classes non-fumeurs. Parce qu'il y aurait eu des études montrant que, bah oui, les interventions en milieu scolaire, finalement, c'était pas très efficace. Et il y avait une critique de Jean-François Ether qui disait, oui, il vaudrait mieux arrêter, ça marche pas. Alors, il n'y a pas complètement tort, mais il n'y a pas complètement raison non plus. Parce que ce qui se passe, c'est que, effectivement, les interventions dans les écoles, dans les établissements scolaires, les études qui ont été faites ont montré que les résultats étaient assez faibles. En fait, c'est vraiment pas tellement surprenant, parce que compte tenu de ce qui est dispensé, ce qui est investi, la manière dont elles sont faites, et finalement le peu d'énergie, le peu de moyens qu'elles ont, on voit pas pourquoi ils arriveraient à avoir un impact beaucoup plus grand alors que l'industrie dépense des milliards dans l'autre sens. Alors cela dit, il y a quand même des leçons à en tirer, et la réponse qui avait été faite dans le courrier sur Global Link des gens qui s'occupent de gérer les classes non-fumeurs, c'était que bon, oui, on essaie quand même d'améliorer un peu ce qu'on propose. Là, je pense qu'on peut faire beaucoup. Je pense qu'on peut améliorer beaucoup, beaucoup. Pas pour lancer une autre pierre, mais il y avait une autre tentative qui avait été une tentative, à mon avis, très très peu efficace, c'était les clubs pataclopes. Les clubs pataclopes, c'était pas une idée en soi. Bien sûr que c'était une idée généreuse, c'était tout ce qu'on voulait, on va faire des choses avec les enfants, mais dans la pratique, je pense que ça n'a pas du tout été efficace. Très peu efficace par rapport aux investissements que ça représentait, par rapport à d'autres choses qui auraient pu être faites, qui auraient certainement auraient eu beaucoup plus d'impact. Quoi, par exemple ? Ah ben, par exemple, je crois vraiment que si on développait la présentation de films, de petits clips anti-tabac dans les salles de cinéma avant le film, je pense que ça aurait beaucoup plus d'impact. Je pense que si on développait des documents pédagogiques, qui soient des documents pédagogiques plus modernes ou justement plus fondés sur l'audiovisuel, un peu comme ce qui s'est fait en Colombie-Britannique, où il y avait justement, on demandait aux jeunes de sélectionner les clips qu'ils pensaient être les plus efficaces, qu'on les faisait étudier ces documents, qu'on leur montrait ça, qu'on les impliquait dans des documents beaucoup plus audiovisuels, je pense que ça aurait plus d'impact que les documents tels qu'ils ont été faits jusqu'à présent. Parce qu'ils n'ont pas été très très dynamiques et qu'il n'y a pas eu certainement assez de recours à l'audiovisuel, à l'internet, des choses comme ça, pour expliquer les choses aux jeunes. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'il ne faut pas se contenter de dire bah non, ça ne va pas ce qui est fait. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça, il faut proposer des choses, regarder ce qui se fait à l'étranger, ce qui marche peut-être mieux et le faire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les anecdotes un peu fofolles qu'on peut trouver, notamment il y a une anecdote d'une Française dans un avion en direction d'Australie qui était apparemment pas très bien, elle disait qu'elle a pris des médicaments, qu'elle était somnambule, qui a voulu ouvrir la porte d'un avion en vol pour aller fumer dehors. Voilà, elle a été un peu condamnée à une petite amende. Et on peut dire, bon, bah, évidemment, c'est pas des choses à faire. Mais bon, tout ça, c'est un peu du folklore. Il y en a un tout petit peu. Il y avait des références intéressantes à une chose qui est en train de se passer en Espagne. On voit un développement considérable des cigarettes les moins chères, parce qu'elles sont dans un système de taxes où elles sont moins taxées que les cigarettes plus chères. Donc, elles ont pris une part de marché considérable. Il y a eu une croissance très forte de ce segment-là. Bah, et oui, c'est certain que les consommateurs... Des fumeurs qui, en grande partie, dans de nombreux pays, sont les gens qui ont le moins de ressources financières. Si on augmente les prix, bon, bah, ceux qui peuvent, ceux qui ne sont pas complètement dépendants, ils vont essayer de réduire leur consommation, voire d'arrêter. Puis les autres, bon, bah, ils vont aussi essayer de se procurer les produits qui leur procurent leur nicotine le moins cher possible. Ça veut dire, en France, on va faire des cigarettes qu'on peut rouler soi-même. Et puis, dans d'autres pays, bon, on va prendre, d'une manière générale, le développement des créneaux des cigarettes les moins chères. Donc c'est ce qu'on voit apparemment en Espagne en ce moment, et ils vont essayer de modifier la taxation, ça sera une chose, c'est sûr. Mais je crois que là aussi, ce qui est important, et ça devrait être le rôle d'une émission sur la lutte contre le tabagisme, c'est de toujours essayer de montrer que c'est une stratégie qui ne doit pas être seulement une stratégie d'augmentation des prix et des taxes, c'est aussi une stratégie qui doit être une stratégie d'investir dans des méthodes efficaces pour inciter les gens à arrêter, pour prévenir les jeunes, pour les aider à ne pas commencer, pour empêcher l'industrie de faire des promotions qui sont des incitations fortes à consommer, pour inciter les pouvoirs publics, les villes, les entreprises à ne pas favoriser le fait de fumer et à aider les gens qui sont dépendants à arrêter, et donc de ne pas se limiter à ce qu'on a vu trop souvent, c'est-à-dire essentiellement une politique d'augmentation des taxes qui remplit les caisses de l'État et qui finalement n'aide pas les gens qui en ont le plus besoin. Elle les soumet à la pression, c'est eux qui financent le système. Mais c'est eux qui ils demeurent, ils restent les victimes, ils en restent complètement les victimes. Donc je pense que c'est vers ça qu'il faudrait aller. Alors j'ai vu aussi des choses sur les efforts qui sont faits un peu dans les pays francophones, notamment les pays africains. Bon, là je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je crois qu'un podcast dans ce domaine serait très intéressant, parce qu'ils auraient la possibilité de s'exprimer, ils auraient la possibilité de raconter ce qui se passe chez eux, on aurait la possibilité très facilement de faire s'exprimer les gens qui sont dans d'autres pays par le biais de l'Internet. On peut avoir des communications complètement gratuites, et à ce moment-là, on aurait véritablement une information très peu coûteuse, intéressante et très régulière, en ayant des correspondants dans les différents pays. Donc ça, j'espère que ça pourra se faire. J'espère aussi qu'on pourrait ainsi avoir des correspondants au Canada, dans d'autres pays francophones, et puis que lors des conférences mondiales, quand il y a des réunions qui se tiennent, on pourrait avoir des gens qui nous tiendraient au courant et qui nous diraient « voilà ce qui se passe, voilà ce qu'on a appris, voilà ce qui nous paraît intéressant, voilà ce qu'il faut retenir ». Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre avant de terminer cette petite émission? Ben non, que c'est beaucoup de travail d'une certaine manière, mais je pense que pour les francophones, c'est une manière assez intéressante de promouvoir leur langue, puisqu'on parle toujours de promouvoir notre langue, et pas seulement de la promouvoir par écrit, ben de la promouvoir par la parole. Et j'espère qu'il y aura bientôt de nouvelles personnes, de nouvelles voix qui viendront se joindre à la mienne pour essayer de nous raconter un peu qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils font pour essayer de lutter contre le tabagisme. Allez, au revoir, bonne semaine.